demander comment obéit-on le plus à Dieu en acceptant, par exemple, dans le cas de la stérilité, en acceptant la stérilité, ou bien en acceptant d'aider à ce que la vie puisse être.
Je ne sais absolument pas. C'est précisément, je ne peux pas dire « on », je ne peux pas répondre. Tu vois ? Je dois voir qu'est-ce qui est dit. Il faut d'abord comprendre que la vie vient de Dieu. C'est une première chose. Et à partir de là, il y a toute une réflexion à faire avec la personne. Mais je ne sais pas quelles sont les circonstances, mais je dois dire que le principe fondamental, et le principe sur lequel le pape revient toujours, c'est celui-là. C'est regarder d'où vient la vie. La vie, nous ne la maîtrisons pas. Alors, regardons dans le cas précis ce que ça peut signifier. Mais édicter tout de suite des lois morales, il faut le faire, parce qu'il faut donner des principes. Mais maintenant, les principes doivent toujours être appliqués concrètement. Et donc il faut d'une part regarder, comme chez Abraham, qu'est-ce que la foi te demande ? Qu'est-ce que Dieu te demande ? S'il n'y a pas de relation avec Dieu, c'est très difficile. Alors, avec des gens qui ont une véritable relation avec Dieu, peut-être bien que la véritable solution est dans ce sens-là. Accepter la stérilité comme la grâce d'une autre fécondité. Mais il faut peut-être réfléchir sur un texte comme celui-là d'abord, mais pas tout de suite répondre, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais il y a un chemin à faire à partir de la question. Et la plupart du temps, tu vois, c'est ce chemin-là qui n'est pas fait. Et alors, on vous dit, l'Église édicte tel ou tel principe, et le principe est vrai. Je ne dois pas mettre le principe en question. Mais maintenant, quel chemin ai-je à faire pour découvrir comment ce principe doit agir dans mon existence? Et là, c'est un chemin. Et voilà un chemin qui devrait être fait, qui malheureusement ne l'est guère, mais qui devrait être fait, et par les prêtres, et par les laïcs, aider des personnes en difficulté ou en problématique de ce type-là. Est-ce qu'on va tout de suite chercher une main porteuse? Est-ce qu'on va tout de suite chercher un moyen génétique quelconque de résoudre le problème? Peut-être bien qu'il faudra aller là, peut-être bien. Mais d'abord, commençons par réfléchir, s'il vous plaît. Et alors, on vous demande de répondre par oui ou par non à une question qui est déjà pratiquement résolue. C'est souvent la question. Or, allons voir, faisons un petit peu un chemin ensemble. Est-ce que ça presse? Est-ce que c'est pour demain? Quel est le chemin de votre vie? Bon, quel est le sens de la stérilité? Il faut d'abord voir de quelle stérilité il s'agit. Et quel est le sens de la stérilité que vous avez vécue dans votre vie jusqu'ici? Quel est le sens? Est-ce qu'elle est porteuse d'une fécondité? Mais si on ne fait pas de réflexion, et je te dis, des textes comme ceci peuvent être utiles pour cela. Il faut réfléchir. Mais vous voyez, plaquer une morale comme cela, une morale de principes qui sont justes, qui ont leur valeur, et qui sont enracinés aussi dans toute une tradition. Mais les plaquer sans réflexion préalable, ça me semble prématuré. Je dirais, il faut... Et toutes les situations difficiles doivent être prises en charge. Malheureusement, la question, c'est précisément celle-là. Quelle est la prise en charge des foyers en difficulté? Il y a des prises en charge, filles, mères, etc., 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 vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Il y a des instances. Les instances sociales. Ces instances sociales résolvent le problème à certains niveaux. Niveau sociologique, niveau psychologique, niveau financier, niveau médical. Il y a différents niveaux. Mais le niveau le plus intérieur, est-ce qu'on le résout? Est-ce qu'on fait un chemin? Ça, c'est une tâche immense. Et je pense que cette tâche est extrêmement importante. Vous avez un baptême. Mais est-ce qu'on réfléchit un petit peu pour savoir ce que c'est qu'un enfant? Enfin, on va le baptiser. Oui. Qu'est-ce que c'est baptiser un enfant? Pourquoi voulez-vous le baptiser? Et découvrir que baptiser un enfant, c'est le plonger, mais avec les parents aussi, dans le mystère trinitaire, c'est pas évident. La plupart des foyers qui me demandent de baptiser leur enfant n'ont pas ça en tête. Enfin, c'est ça. Il y a une personne qui va mourir ou qui est morte. Bon, heureusement, il y a des visiteurs de malades et il y a un soutien pour les mourants. Et c'est excellent. Il faut encore intensifier cela. Mais alors, essayer de réfléchir et d'approfondir avec la famille, de prier avec la famille, dans la signification de ces funérailles, de cette mort pour tout le monde et pour la société, la paroisse, le quartier, etc. Mais ça se fait, heureusement, déjà en partie, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Alors, ça, c'est tout un travail qui est à assumer par tous, je crois. Par tous.
Dans le cas que Michel soulève, on parle de présupposés différents. Le couple veut un enfant et estime qu'il en a le droit. Or, l'Église n'est pas la seule, parce que j'ai entendu un prêtre de l'ULB dans le même sens que l'Église, mais il y a déjà un petit temps, dire on va d'abord partir du droit de l'enfant à naître. On doit partir à partir de lui.
C'est ça.
L'enfant a droit à avoir des parents qui sont de vrais parents.
Et c'est ça.
C'est déjà un renversement de perspective.
Tout à fait. Tout à fait.
Et les positions de l'Église sont déduites de ce biais-là.
Tout à fait. Tout à fait. Mais le fondement de la position de l'Église, c'est ceci. L'enfant vient de Dieu.
Sur le plan humain aussi.
Pardon ?
Sur le plan humain aussi.
Ah oui.
Quand il y a des parents qui se bagarrent autour d'un enfant, qui dit, mais c'est vous, parents, vous n'avez pas de droit. C'est l'enfant qui a un droit. Et vous, vous avez des devoirs. Mais quand on dit ça, on a qu'en face de soi des yeux comme ça.
Et c'est une juriste qui parle.
Oui, mais qui a l'expérience. Ah.
Mais voyez comment tous ces problèmes, vous les retrouvez à partir des textes. Ça vous renvoie dans votre aujourd'hui. Mais ce n'est pas une histoire ancienne. Hein. Et c'est comme ça qu'on peut réfléchir. Hein. Petit à petit, nous allons nous arrêter parce que j'ai déjà dépassé l'heure depuis longtemps. L'an prochain. Mais voyez, dans un texte comme celui qui est difficile, du sacrifice d'Abraham, il est difficile parce qu'il heurte. Il heurte notre sentiment. Et il est important que ça heurte notre sentiment. Pourquoi? Pour le plaisir de heurter, mais non. Pour montrer notre inadéquation fondamentale au projet de Dieu. Je dis inadéquation fondamentale. Nous ne sommes jamais vraiment ajustés au projet de Dieu. Et cette optique que vous voyez constamment dans la Bible, et qui est mise au départ au compte de Dieu lui-même. Dieu crée, et puis tout d'un coup, il cesse. C'est curieux de parler comme ça. Comment voulez-vous que Dieu cesse quelque chose? Ben oui, il a commencé. Ce sont des manières tout à fait humaines de parler. Dieu ne commence pas, et Dieu ne cesse pas. Dieu est. Mais il faut bien parler de lui, précisément parce qu'il est. Et nous avons des commencements et nous avons des fins. Alors nous disons que Dieu a commencé à créer, c'est une manière tout à fait anthropologique, humaine de parler, et nous disons que Dieu met un point final. Mais rien que cela. Et qu'est-ce que ça veut dire de parler de Dieu comme cela? Eh bien, le texte veut dire, c'est que cette manière de parler veut dire que Dieu prend l'initiative de faire exister qui, ben, moi, nous, le monde, le cosmos dans lequel il prend cette initiative. Mais prendre cette initiative de faire exister un monde, c'est un engagement terrible. Dieu se donne. Mais il se donne à quoi, à qui? À un être dont, je parle toujours en homme, dont il sait qu'il qu'il ne pourra pas avoir confiance en lui. Ça qui est terrible. Étant donné qu'il est limité, qu'il ne pourra pas le recevoir tel qu'il est, qu'il aura sa liberté, qu'il pourra s'opposer à lui, Dieu se confie, Dieu se donne à un être qu'il fait surgir, qu'il se donne comme partenaire, et dont il sait, je dirais, pertinemment, avant même de le créer, si cet avant a un sens, qu'il ne sera pas fiable. Et voilà, ça c'est, je dirais, le drame, c'est comme ça que c'est vu dans la Bible, c'est un drame, le drame de l'alliance de Dieu avec l'homme. Il se donne un partenaire non fiable. Et il se le donne de gaieté de cœur. Et pour cela, je veux dire, il se rétrécit en quelque sorte, hein, c'est ce que je vous disais au départ, comme une maman qui se rétrécit pour laisser place dans son ventre à l'enfant, pour le laisser se développer en elle. Et c'est ainsi, je dirais presque, que Dieu est vraiment lui-même, si je peux encore m'exprimer comme ça. Je m'exprime en mots humains. Il est vraiment content, il est vraiment père, en laissant la place à l'autre, dont il sait qu'il n'est pas fiable. Alors, vous voyez, et c'est cette chose extraordinaire que la Bible veut exprimer. Et elle veut l'exprimer à travers une expérience précise, mais une expérience séculaire. Et donc, vous allez voir constamment, 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 à travers tous les textes, trois choses qui seront dites et sur lesquelles on reviendra. Et pratiquement tous les textes sont construits sur ce triangle, cette triade. Dieu est initiative d'amour. Vous aurez remarqué qu'on n'a guère parlé d'amour jusqu'ici. On n'en a guère parlé. Parce que le mot d'amour est trop galvaudé et trop fragile pour exprimer cette réalité-là. Alors on préfère vous l'exprimer en termes concrets. Dieu se donne, Dieu donne, car il se donne dans ce qu'il donne, puisqu'il donne d'être image, d'être son image. Donc première chose, Dieu donne librement, il prend l'initiative de donner. En termes humains, ça veut dire il choisit. Choisir, c'est ce que vous voulez, je choisis. Pour nous, choisir, c'est prendre certains et pas d'autres. Hein? C'est ça que ça veut dire. Pour Dieu, c'est pas comme ça. Choisir, c'est prendre chacun selon ce qu'il est. J'explique parfois ça aux enfants en leur disant, mais voilà, nous sommes 21 dans la classe. On va faire une pièce. Hein? Combien on va avoir de personnages? Ben, 21, évidemment, puisqu'on est 21 dans la classe. 21. Alors, je dis, je vais choisir le pauvre. Qu'est-ce qu'il veut faire, le pauvre? Pas beaucoup de monde. Hein? Pas beaucoup de monde. C'est drôle. Hein? Je dis attention, c'est peut-être le plus important. Nous reviendrons après. Qui veut être le roi? Ah, il y a des tas de doigts. Et bien, je dis, je vais choisir un roi parmi ceux qui n'ont pas demandé à être roi. Vous voyez, en faisant des choses pareilles, je montre un peu ce qui va sembler à les enfants arbitraire. Pourquoi lui? Parce que j'aime bien de choisir, lui. Il n'a pas demandé à être roi, donc il n'a aucun privilège, aucune revendication. Il est tout simple, on peut choisir lui. Hein. Et éventuellement, s'il y a quelqu'un qui est un petit peu plus handicapé, c'est lui que je vais choisir.
L'élection de David qui sera mon fils.
Le plus petit. Mais oui. Oui, c'est pour leur faire percevoir que le choix est quelque chose de gratuit. Ça va leur paraître d'abord arbitraire. Pourquoi lui? Moi, j'ai plus de droit que lui. Ah oui, de droit, oui. De droit, tu parles bien. Hein? Une couronne, ça tirait bien sur la tête. Hein? Ça tirait très bien. Mais c'est pas ça que le bon Dieu demande. Il ne demande pas qu'on tienne compte de ce qu'on a. il demande qu'on tienne compte de ce qu'on n'a pas, parce qu'alors on peut recevoir plus. Eh bien, ce que je dis comme ça de manière tout à fait simple à des enfants, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Me recevoir de Dieu, c'est la chose la plus difficile. Ça commence par là, et c'est la chose la plus difficile du monde. Me recevoir. Recevoir d'être cette créature que je suis, élue par lui de tout temps, et donc comme son bénéficiaire. Oui, mais l'autre. L'autre, c'est l'autre. Et ça vient encore à la fin de l'évangile, là, hein, quand, après, au chapitre 21e de Saint Jean. Hein, Pierre, Jésus a dit m'aimes-tu, etc. Vous connaissez l'histoire. Et puis, lui qui suit là. Hein, t'occupe pas du chapeau de la gamine, dit Jésus. Pousse la voiture. Oui, et ça, c'est justement ne pas accepter que chacun soit unique. Mais c'est ça. Ça, c'est le premier point. Dieu choisit des uniques. Mais s'il y en a beaucoup, c'est plus des uniques. Ça, c'est votre façon de voir. Parce que vous, vous mélangez. Mais quand Dieu choisit, c'est un unique chaque fois. Mais il prend l'initiative du choix de chacun. Et je vous dis qu'en catéchèse, c'est pas du tout facile à percevoir ça. Et pourtant, je crois que c'est une chose qu'il faut pouvoir faire. Arriver à cela. Et le juif raconte ça à partir de l'Ech Lecha, hein, c'est-à-dire la première parole de Dieu, de Yahvé plutôt, à Abraham, va vers toi en te quittant. C'est quand même curieux. Va vers toi. C'est-à-dire, reçois un au-delà de ce que tu es. Tu crois que tu n'es que cela, que ce que tu as vécu jusqu'ici, que les qualités qu'on t'a mis sur le dos. Et les défauts qu'on t'a mis aussi sur le dos, tu crois que tu n'es que cela. Je parle d'un enfant, mais je parle aussi bien d'une grande personne. Mais tu es beaucoup plus que cela. Tu es image de Dieu. Alors, est-ce que tu as déjà laissé se développer en toi toutes les virtualités de l'image de Dieu qui sont en toi? Vous voyez? C'est ça, initiative. Initiative de Dieu, initiative de l'Alliance, initiative de la création, initiative de l'histoire. Et alors, vous voyez, tous ces choix que Dieu opère constamment dans la Bible. C'est pour ça qu'il y a des choix. On choisit Samuel, on choisit Shaoul, on choisit David, hein, etc. Il y a des choix. Et on voit que ces choix se font toujours à travers quantité de magouilles. Quantité. Partout. Il y a des oppositions, ça ne va pas, il y a le parti royaliste et le parti anti-royaliste, etc. Vous trouvez partout, partout. Et donc ça commence. Choix de Dieu, qui dit choix de Dieu, dit réponse de l'homme infidèle, non fiable. Jamais Dieu n'a une réponse qui soit un oui total, même s'il l'est au départ, me voici, il est présent dans Abraham, comme souvent dans chacun d'entre nous, il y a une disponibilité. Le seul oui vraiment fiable que nous allons trouver, c'est celui de la Vierge Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qui va plus loin que, il fit selon que le Seigneur lui avait commandé. Parce que qu'il me soit fait selon ta parole, c'est une disponibilité totale. On ne sait pas encore très bien à quoi. L'Esprit Saint surviendra sur toi. Voilà. Elle fait confiance. Et c'est cette confiance extraordinaire que nous n'avons pas. Dieu, en nous créant, Dieu, en nous appelant, fait appel à notre confiance. Il nous fait confiance. Et nous, immédiatement, défiance. Protection. Préservatif. C'est important de se rendre compte de ça. Et donc, ce que nous faisons, c'est exactement le péché originel. Nous voulons, nous, que les choses aillent comme nous les voyons. J'ai un projet pour ma propre réussite, eh bien, je veux le pousser. Il me semble que je suis ceci ou cela, que c'est cette image-là qui est la mienne, et je veux correspondre à mon image. Et on comprend cela. On comprend l'homme. On comprend, c'est nous-mêmes, nous voulons nous assurer, nous voulons avoir des bases un peu fermes, c'est-à-dire des bases un peu fermes, c'est-à-dire les bases où nous croyons que nous pouvons nous accrocher. Tandis que la base, c'est Dieu lui-même. Et mais voyez, quand on poignant Dieu, on ne sait pas tellement s'accrocher parce qu'il n'est pas là. Et c'est ça, cette confiance qui est extrêmement difficile, je dirais même impossible. Mais comme aime le dire Michel Bouillot, hein, ce n'est pas le chemin qui est impossible, c'est l'impossible qui est le chemin. C'est évidemment là que Dieu nous prend. Juste, comme je vous disais, à l'endroit de notre limite. Au moment où ça devient impossible, vous savez, j'aime bien citer ce passage de la petite Thérèse, hein, qui avait été nommée maîtresse des novices, et qui disait, pour moi, c'est pas possible, ça. Hein. Moi, la petite Thérèse, m'occuper, hein, avoir charge de deux novices, non, pas possible. Elle pleure, elle se lamente pendant tout un temps. Et puis, on trouve dans son carnet autobiographique, dès lors que j'ai compris que ça m'était impossible, cela ne m'a plus paru difficile. Dès lors que j'ai compris que c'était impossible, donc que Dieu me demandait quelque chose d'impossible, cela ne m'a plus paru difficile. Pourquoi ? Parce que elle se rend compte à ce moment, c'est-à-dire elle comprend, elle saisit, elle vit le fait que c'est Dieu qui doit le faire en moi. Mais se livrer comme cela, pourtant c'est le sens de notre destinée à tout un chacun. C'est nous livrer vraiment à cette présence de Dieu. Je suis créé pour aimer et servir Dieu. Voilà. C'est-à-dire pour m'en remettre totalement à lui. Et entrer ainsi dans la communion de Dieu lui-même, la communion trinitaire. C'est ça ma destinée. Mais vous voyez que nous ne sommes pas ajustés immédiatement à cette perspective. Et nous avons peut-être besoin de tout le chemin de la Bible, depuis le début jusqu'à la fin, pour nous laisser ajuster à cette perspective. C'est ça la justification. Devenir juste, c'est se laisser ajuster à cette perspective de Dieu. Dieu se donne, Dieu choisit, Dieu commence, fait alliance, hein, commence l'alliance. L'homme, d'une manière ou d'une autre, refuse. Il dit non, c'est trop fort, c'est trop difficile, je ne fais pas ça, je préfère suivre mon chemin. Péché originel. Dieu dit d'abord le péché, mais hein, nous refusons et Dieu nous le dit. Et c'est très important que le péché soit toujours révélé dans la Bible. Vous voyez, Dieu se promène au jardin et il révèle le péché. Et dans la Bible, d'une manière tout à fait constante, ça revient à des moments bien, bien déterminés, quand l'homme a fait une gaffe, une bêtise, une faute, Dieu le lui révèle. L'homme a la conscience d'une faute, mais ne sait pas encore ce que c'est que le péché. Et nous mélangeons souvent les deux, et en catéchèse, souvent. L'enfant a conscience d'une faute ou d'une transgression, ce qui n'est pas encore la même chose. La faute, c'est le sentiment de malaise que j'ai devant une transgression que j'ai faite. C'est le malaise, c'est quelque chose d'intérieur, c'est psychologique, la faute. Et souvent, nous prenons le sentiment psychologique de faute comme étant un péché. Nous mettons le mot péché dessus. Non. C'est Dieu qui va révéler qu'il y a un péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va révéler qu'il a été atteint dans cette réalité-là. Et d'où vient que tu as vu que tu étais nu? Et aurais-tu par hasard atteint l'image de Dieu en toi? Voilà. L'image de Dieu, c'est cette image de vie. Et aurais-tu par hasard atteint cette image en voulant prendre la vie pour toi, en voulant en être le maître? Et donc c'est encore une réalité extrêmement importante à faire percevoir. Dieu révèle à David son péché. Bon, il est maître de ses sujets, mais il peut les envoyer à la vie ou à la mort. C'est son droit. C'est toi, cet homme. Et la révélation du péché, c'est Jésus. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. C'est là que je vois jusqu'où mon péché mène. Jusqu'à cette violence contre Dieu lui-même. Et Dieu, s'il a pris une chair humaine, c'est précisément pour me montrer qu'il peut être vraiment atteint par mes coups. Mais celui que j'ai atteint par mes coups me pardonne. Et il me pardonne dans le corps de Jésus de Nazareth qui pendait sur la croix le 30 avril, le 7 avril 30. Mais Jésus sur la croix est aussi sur la croix dans tous ceux qui souffrent dans le monde d'aujourd'hui. Il est présent dans tous ceux qui souffrent la violence, quelle qu'elle soit. Donc vous voyez, Dieu me révèle cela. Et le chemin qu'il prend pour révéler cela, ce sont les prophètes. Et c'est pour ça que les prophètes sont toujours, ont toujours une première partie dans leur livre, qui sont des prophéties de malheur. Ben, ils le font évidemment avec leur langage, celui de leur temps, et avec, dans les circonstances dans lesquelles ils sont, bien entendu. Mais ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Premier mot de Dieu, c'est l'initiative de l'amour. Réponse de l'homme, qui devrait entrer dans l'alliance, et infidélité à cette alliance, Dieu passe à travers, il pardonne, il donne à travers, pas. Il passe à travers l'infidélité de l'homme, non pas de l'extérieur, comme le disait Luther, en couvrant tout le monde de la cape de sang de Jésus, mais de l'intérieur, au cœur même de chacune de nos libertés, en les plongeant dans un bain trinitaire, qui est le baptême, en les remettant à neuf, en quelque sorte, en les faisant passer à travers le déluge du nom. Et le déluge, vous voyez, c'est la révélation en termes de pluie, en termes de lavement extérieur, nettoyage, en termes de nettoyage, de tout ce péché, de toute cette violence qui est présente dans l'homme. Et donc le baptême, c'est aussi cela. Mais symboliquement et prophétiquement vécu dans un acte liturgique au départ d'une vie ou à partir d'un certain moment de cette vie. À charge de vivre son baptême tous les jours. À charge d'émerger de l'arche tous les jours. À charge de découvrir pourquoi je suis à la porte du jardin. Eden Park est fermé, et pourtant j'ai à vivre de cette vie de Dieu qui m'est donnée, au-delà des chérubins de l'Éden, au-delà. Adam connut Ève, sa femme, à partir de ce moment. Donc la vie continue, la vie m'est redonnée comme un cadeau, dans des circonstances difficiles. Pourquoi ? Dans les circonstances difficiles, parce que ce sont les circonstances dans lesquelles nous nous sommes mis. Et qui sont à assumer.
Mais la Bible parle plus souvent du péché que des péchés.
Mais oui.
Et chez nous, on parle toujours le juste pêche 7 fois par jour, 7 péchés tous les jours.
Ah oui, mais il ne dit pas ça. Le juif pêche 7 fois. Mais ce n'est pas 7 péchés. Le péché, c'est une réalité profonde, humaine. Mais nous. Nous sommes toujours nous construisons avec des briques et du bitume. Nous en faisons des trucs. Il y a un péché, il y a un deuxième péché, il y a un troisième péché. Mais le péché, qui s'exprime dans des actions concrètes, est une réalité profonde. C'est un désajustement à cette image de Dieu qui est en nous. Nous nous remettons toujours un peu en arrière. Oui.
Et l'image maintenant est en tournant. Alors, il faut absolument que vous l'exercice avec.
Parle plus fort.
Oui. Après, on parle souvent d'image, on comprend tout de suite maintenant. tu vas développer toutes les virtualités de l'image de Dieu en toi, vous venez de le dire aussi. Eh bien, on traduit souvent que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui. Alors que je crois que la bonne traduction, c'est à son image en vue d'une ressemblance.
Oui, mais je l'ai déjà dit, non. Il crée à son image, et alors comme hein, ça c'est une chose que met bien en évidence Marie Balmarie, justement, à partir de Saint Grégoire de Nice aussi, il dit, il crée Dieu à son image et à sa ressemblance, et c'est vrai que juste après, Dieu crée l'homme à son image, et on ne répète plus ressemblance. Et je dirais, ça c'est la part de l'homme. C'est ce que nous appelons dans notre langage, depuis Thomas d'Aquin, l'imitation de Jésus-Christ.
Oui, mais tiens, si vous m'en permettez, il n'y a pas très longtemps, j'ai reconnu dans le Borinage un jeune homme. Je dis, toi, tu es certainement le fils d'un tel de Glin, justement. Il me dit, oui, c'est mon père. Tu vois, de loin, en dehors du contexte, j'étais reconnu. J'en ai parlé au père qui m'a dit, c'est un grand malheur, oui, il me ressemble comme du goutte d'eau, c'est devenu un voyou. Il ne me ressemble pas du tout. Alors, il y a toutes sortes de ressemblances.
Oui, mais là. Eh bien. C'est un peu ce que nous sommes. Nous sommes les fils et les filles de notre père et nous sommes des voyous. Qu'est-ce que Dieu fait avec les voyous? Il les reconnaît. Il y reconnaît l'image de son fils, comme tu disais très bien hier, en disant que dans l'image du roi de Babylone déchu, Dieu lit encore l'image de Jésus. Et pourtant la ressemblance n'existe pas.
Il ressemble à un père de l'Église.
Voilà, nous en resterons là si vous voulez bien. Je voudrais vous dire merci.
Merci.
Oui, merci parce que pour moi c'est toujours important d'essayer de laisser parler ce texte, ces textes, cette Bible, non seulement parce que j'en ai reçu la mission, mais parce que je les aime bien. Alors, peut-être, Inch'Allah, ou Bezrat Hashem, au revoir.
La fête de Saint-Irénée, martyr à Lyon, en l'an 200. Il nous met sur le chemin de la grande tradition, puisqu'il était lui-même disciple de Saint Polycarpe, disciple à son tour de Jean l'Évangéliste. C'est la tradition qui nous rapproche de Jésus, et qui en même temps exprime cette dispersion par le monde de la parole d'Évangile. Saint-Irénée a une pénétration extraordinaire mystère de Dieu en lui-même d'abord, dans la Trinité. Le mystère de Dieu présent en Jésus, en tout homme. Et dans ses livres, qui ont été souvent des livres polémiques, parce qu'il avait à s'opposer à une tradition qui faisait de Jésus soit simplement un Dieu et dont l'humanité n'aurait pas été réelle, soit simplement un homme comme les autres et dont la divinité n'aurait pas été réelle, il a été vraiment un homme de foi. Un homme qui essaie de s'ajuster, comme nous le disions tout à l'heure, à cette présence intérieure de Dieu. Et cette incandescence se manifeste dans les phrases extraordinaire de profondeur et en même temps de simplicité. Nous demandons pardon, Père, parce que nous ne sommes pas fidèles à tes initiatives d'alliance. Pardon, parce que nous avons tant de mal à recevoir, à accepter, à vivre le don que tu nous fais de ton image. Pardon. Ne voici plus le respect pour ceux qui vivent autour de nous, qui sont autres que nous, et qui sont aussi l'image de Dieu. la montagne. De grandes foules se mirent à le suivre. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha, et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Ce contraste entre le psaume de lamentation sur les ruines de Jérusalem, qui fait suite, qui fait écho bien sûr à l'évangile de la destruction totale de Jérusalem, de la seconde vague de l'attaque de Nabucodonosor contre la maison, et puis s'en désemparer immédiatement après, à l'alléluia. Étrange bonne nouvelle que ce contraste, ce passage de la tristesse, de la lamentation, du deuil à la joie. Effectivement, le psaume lui-même nous y invite. Que ma langue se colle à mon palais, si je perds ton souvenir, si je ne tiens Jérusalem pour la plus haute de mes joies, voici que cette joie me fuit. Et cette espèce de logicocèse m'accompagne constamment dans la Bible. Au fil des textes. Nous voyons constamment se bousculer massacre, deuil, ruine, tristesse et joie, découverte de la présence de Dieu, marche dans l'abondance, dans la sécurité. Et cela se suit, comme cela se suit dans nos vies d'aujourd'hui. Comme il arrive dans nos vies d'aujourd'hui, de célébrer une fête, et puis quelques heures après, dans la même église, au même hôtel, des obsèques, des funérailles. Qui serait ? Nous avons vu fréquemment cette parole dans les listes d'engendrement. Tu engendras telle ou telle personne, tu engendras telle vie des fils et des filles. Puis, à telle ou telle année, il mourut. Et puis on voit le flambeau qui est repris et qui continue là. Étrange processus que Dieu a mis en route en créant l'humanité. Cette humanité qui a pris des centaines de millions d'années, de milliers d'années, pour arriver à l'humanité. Cet homme qui sort des ombres de l'animalité, des ténèbres animales, pour petit à petit se hisser jusqu'à une connaissance de l'homme, des choses, du monde et de Dieu. Étrange processus. Qui est analogiquement ce long processus de la formation d'un petit homme, longuement dans les ténèbres, dans le sein de la maman, avant qu'il émerge à ce monde, et puis de devenir la joie d'être un homme, une joie qui peut créer la réciprocité. C'est l'image. Notre vie au Dieu est le texte. Et cet auteur de notre vie est présent à tout ce que nous vivons. Pas homme.
C'est vrai que ce terme d'image ne me fait pas souvent réel. Pourtant, cette image, et c'est pour cela que la Bible prend l'exemple d'un potier qui façonne l'homme comme la façonne d'une figurine ou un vase. Nous avons pour ainsi dire les mains de Dieu qui nous collent à la peau. Et nous n'en sommes pas toujours conscients. Nous voulons vivre à l'extérieur de ces mains. Nous voulons chercher nous-mêmes nos protections. Nous voulons chercher nous-mêmes notre stabilité, nos assurances. Et qu'est-ce que nous trouvons dans nos assurances des ruines, des cendres, des fuites, des épandages. Et nous revenons vers le Seigneur avec nos épaules. Plus pauvres. Peut-être plus riche de son amour, car nous savons que son amour est pardon. Et c'est cette image qui nous est redonnée dans l'Évangile. Nous avons lu les jours passés la fin du discours de Jésus sur la montagne. Et voici que le discours est achevé. Jésus a fini de parler. Et cela arrive par cinq fois. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus fait un discours. Nous avons discours. J'espère que dans le discours, je n'ai pas trop fait mentir la parole. Et maintenant, comme nous le disait précisément à la fin de ce discours, la parole est aux actes. Il faut maintenant vivre ce que nous avons petitement, peu à peu, découvert. Que fait Jésus? Car, après avoir parlé, Jésus agit par cinq fois dans les mensuels de Matthieu. Que fait-il? Il descend de la montagne. Il est suivi par le monde. Peut-être sont-ils ces foules qui le suivent. Et voici qu'un lépreux, un homme en manque, un lépreux, celui qui a l'aspect, le visage, le corps, tout défiguré, comme si l'image de Dieu était caricaturée, défigurée en lui. C'est ça, le lépreux. Un lépreux n'a plus vraiment le visage d'un homme. Ce lépreux se proche. Et c'est peut-être lui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Dans la Bible, on ne guérit pas de la lèpre. La lèpre est autre chose qu'une maladie. Elle est vraiment en défiguration. C'est bizarre. Il faut purifier, comme l'eau des lits. Si tu veux, tu peux me purifier. C'est une mise en disponibilité face à la puissance purificatrice de Jésus. Jésus pourrait seulement parler. Il ne fait pas que parler, il touche. Toucher un lépreux était interdit, parce que le lépreux est contagieux. Il se fait risquer de se contaminer en touchant le lépreux. Et voilà qu'il touche le lépreux. Et au lieu d'être contaminé, c'est lui en quelque sorte qui contamine le lépreux par sa vie. Je ne veux pas. Et vous voyez que Jésus a repris exactement les mots de l'homme. Il s'est glissé en quelque sorte dans le plaisir de l'âme. Il parle, et les choses existent. Il appelle les étoiles, la lune, la terre, les pousses, les animaux, viennent tout. les années de conversion, de retour en arrière, de marche en arrière. Puis, il vous demande de vous mettre en chemin sur cette route-là. Et pourquoi? Ne dis rien à personne. Transmontrez au prêtre les hommes d'offrande de Moïse à prescrire par la loi. Prends grâce par le chemin qui est prescrit dans la loi. Ne te vante pas. Ne manifeste pas tellement ce qui s'est passé.